BFM Business, l'info éco.
Bonjour à tous. Atos revoit à la hausse ses besoins de financement. En difficulté, le géant informatique français indique avoir besoin d'1,1 milliard d'euros de liquidités pour financer son activité en 2024-2025, contre 600 millions d'euros précédemment. Par ailleurs, Atos se dit satisfait après que l'État français ait manifesté hier son intention de racheter ses activités souveraines, notamment ses supercalculateurs. Les explications de Mathieu Pechberti.
Alors qu'Atos s'enfonce dans la crise, le gouvernement n'a plus d'autre choix que de nationaliser ses activités sensibles. Elle pèse 900 millions d'euros de chiffre d'affaires pour 4000 salariés et touche à la simulation des missiles de l'armée, aux écoutes de la DGSE ou encore au système de communication des Rafales. Mais l'État ne veut pas y aller seul. Il souhaite que des industriels de la défense investissent à ses côtés et gèrent ses activités comme Thales le fait chez Naval Group. Bercy discute déjà avec des groupes proches de l'État comme Dassault Aviation, Thales et Airbus. Et des partenaires informatiques comme OVH ou Devoteam pourraient aussi être sollicités. Bercy devra ensuite négocier avec Atos le prix de ses activités qui sont très peu rentables, voire en perte comme les supercalculateurs. Mais le groupe n'entend pas les céder à bas prix alors qu'il a besoin de plus d'un milliard d'euros pour se renflouer. Le ministère prévoit de confirmer son offre début juin, un délai très court d'un mois seulement, pour trouver un accord à la fois avec Atos et les industriels de la défense.
De son côté, Vivendi publie un chiffre d'affaires de 4,3 milliards d'euros au premier trimestre, un bond de 86,6% sur un an, grâce notamment au rachat de Lagardère. Les bons résultats de Vivendi tirent vers le haut le groupe Bolloré. Il publie un chiffre d'affaires de 5 milliards d'euros au premier trimestre, une progression de 3% sur un an. En parlant de Lagardère, le PDG du groupe éponyme Arnaud Lagardère est entendu en ce moment au tribunal de Paris. Il pourrait être mis en examen pour abus de biens sociaux. L'homme d'affaires est soupçonné d'avoir puisé dans les comptes de ses sociétés pour financer son train de vie. La Société Générale signe un contrat d'approvisionnement en énergie solaire avec le producteur français JP Énergie Environnement. Un accord d'une durée de 20 ans qui doit permettre la création d'une centrale photovoltaïque dans le Cher, en région Centre-Val-de-Loire. Sa livraison est prévue en 2026. Le déficit public fait son retour à l'Assemblée nationale. Un débat sans vote aura lieu cet après-midi pour évoquer le budget de la France, plus précisément la loi d'orientation des finances publiques. Après une prise de parole du gouvernement, les représentants de tous les groupes politiques pourront s'exprimer dans l'hémicycle. Le président chinois Xi Jinping est attendu en visite d'État en France lundi et mardi prochain. Il sera reçu à l'Élysée par Emmanuel Macron, avec qui il évoquera notamment les questions commerciales et la guerre en Ukraine. Les deux dirigeants se rendront ensuite dans les Hautes-Pyrénées pour un détour plus personnel. Le G7 a rendez-vous aujourd'hui à Turin pour discuter environnement et stratégie face au changement climatique. Les experts appellent l'organisation à bannir les énergies fossiles. La France tentera de convaincre les autres membres du groupe de sortir du charbon à l'horizon 2030. Anthony Blinken est arrivé ce matin en Arabie Saoudite. Le secrétaire d'État entame une tournée au Moyen-Orient. Objectif, promouvoir une trêve entre Israël et le Hamas et permettre l'entrée de plus d'aide humanitaire dans la bande de Gaza. Anthony Blinken rencontre en ce moment à Riyad plusieurs de ses homologues, notamment Stéphane Séjourné, le ministre des Affaires étrangères. Il se rendra ensuite en Jordanie et en Israël. Enfin, aux États-Unis, Philips accepte de payer 1,1 milliard de dollars pour régler des litiges. Le groupe faisait l'objet de poursuites. Il avait été contraint de rappeler des appareils respiratoires défectueux pour des personnes souffrant de troubles du sommeil. Les appareils en question avaient notamment causé des blessures corporelles.
Merci, Yoann.
Votre rendez-vous avec Shares. Apprenez et inspirez-vous d'investisseurs expérimentés sur la première application conçue et régulée en France.
BFM Business, tout pour investir. Lorraine Goumeau.
On s'occupe de vos finances personnelles tous les jours de 10h à midi sur BFM Business. Nous sommes à la radio, à la télé, sur le web, tout ça en direct de 10h à midi. Mais on est aussi en podcast et en replay sur le site et l'application BFM. Bonjour à vous qui nous écoutez ou qui nous regardez peut-être depuis l'étranger. Au programme de l'heure à venir, on va vous faire rêver. On va parler immobilier de prestige avec Sotheby's, l'immobilier de luxe qui ne connaît pas la crise. On parlera également de crowdfunding, le financement participatif en bon français, qui fête ses 10 ans. Et oui, on va faire le bilan de l'évolution de ce mode de financement sur les 10 dernières années et puis sur les grandes tendances à venir. Vous êtes assez nombreux à réagir sur ce sujet, à nous poser des questions, parfois à partager un petit peu votre relative angoisse vis-à-vis du financement participatif, comme Franck et Laurent, à qui nous répondrons tout à l'heure. Vous êtes branchés avec nous, vous participez à cette antenne, vous pouvez me joindre par email, l'adresse est direct@bfmbusiness.fr ou sur LinkedIn, comme Jean-Yves. Et Jacques André qui m'ont écrit depuis le début de l'émission. Beaucoup, beaucoup de réactions sur Total qui risque de quitter la côte parisienne pour partir à New York. Qu'est-ce que ça voudrait dire pour vous qui avez acheté du Total Energy et qui en logé dans votre PEA? Demain, je pense que nous ferons un sujet spécial dessus entre 10h et 10h30. On répondra notamment aux questions d'Alexandre, d'Éric et de Michel. Nous allons rejoindre Antoine du côté de Euronext pour faire le point sur la séance en cours avec le CAC 40 qui évolue toujours autour des 8100 points.
Votre rendez-vous avec eToro, plateforme de trading et d'investissement. Les traders intelligents choisissent les meilleurs outils.
Cher Antoine, on vous retrouve, une matinée tranquille, on est toujours au-dessus du seuil symbolique que vous nous disiez tout à l'heure, 8100 points, 8107 points précisément.
Oui, mais la tendance positive a tendance à s'étioler un petit peu. Bon, on gagne toujours du terrain, mais plus 0,24%. Vous voyez, c'est une toute petite hausse, 8107 points effectivement. Du côté du DAX à Francfort, plus 0,11%. Et on a même tout juste un Eurostock 50 à l'équilibre, plus 0,07%. Ouais, sans trop de conviction, ce début de séance, il était en hausse dans le sillage de Wall Street, notamment avec la très belle clôture vendredi soir, le Nasdaq en particulier, qui a repris 2%. On a repris courage après une semaine un petit peu compliqué, mais les très bons résultats de la Big Tech américaine ont tranquillisé un petit peu tout le monde. Donc une hausse pour poursuivre, mais sans conviction, une semaine qui va être compliquée parce qu'il y aura énormément de choses à venir, notamment une réunion monétaire de la Fed. Il y aura en fin de semaine les chiffres américains de l'emploi, beaucoup d'indicateurs économiques qui vont tomber, notamment demain les PMI en zone euro. Donc il y a beaucoup de choses et paradoxalement, mais une semaine un peu creuse étant donné que mercredi on aura le 1er mai, que ce sera chômé du côté d'Euronext et donc que les volumes risquent de s'étioler un petit peu. Donc pas de grande orientation en termes de valeur. À noter quand même Philips, dont on a parlé dans l'info éco, qui essaie de régler une bonne fois pour toutes avec une note d'un peu plus $1 milliard l'affaire des respirateurs défectueux aux États-Unis. Bah, tout ça est largement salué par la bourse. Le titre prend 36% en ce moment. Ça met fin à une hypothèque qui pesait depuis des années sur la valeur. À noter parmi les valeurs du CAC 40, la plus forte hausse du moment, c'est Eurofins Scientifique qui gagne 2,4% à 58,02€, suivi de Michelin qui gagne 1,7% à 36,22€, la BNP Paribas bien orientée depuis le début de la séance qui prend 1,5% à 68€. Grosse semaine pour le secteur bancaire. On a aussi Société Générale et Crédit Agricole qui publie le résultat trimestriel vendredi. Et puis à noter, Vivendi accueille négatif des performances du groupe sur le premier trimestre. Le titre perd 0,9% à 9,75€. Airbus signe la plus forte baisse du CAC à moins 1,25%, 155,10€. En tête des progression du SBF 120, c'est Atos. Atos, avec cette réflexion autour de la nationalisation de certaines activités essentielles pour l'État, notamment les supercalculateurs, le titre gagne 16,4% à 2,22€. Le CAC plus 0,23, on est à 8107 points et l'euro 1,0707 Lorraine.
C'est l'heure de votre histoire, Antoine, si vous ne cassez pas tout votre matériel, et nous allons parler crypto.
Tout pour investir, l'histoire d'Antoine.
Vous nous parlez de Marathon Digital qui va revoir ses ambitions de minage à la hausse. Racontez-nous.
Oui, c'est la grande major du minage de Bitcoin qui est cotée au Nasdaq. Et là, on est dans le domaine du simple, de l'efficace et du radical. Les récompenses ont été divisées par deux pour les mineurs, après le fameux halving, le fameux ajustement technique du Bitcoin. Eh bien, Marathon Digital a décidé de rehausser ses capacités de production de 100% d'ici la fin de l'année. Rien que ça. C'est ce que dit le groupe, qui compte en fait augmenter très sensiblement en fait ses capacités de calcul et donc augmenter ce qu'on appelle, Amaury pourra vous expliquer ça, le hash rate, la capacité à traiter des opérations. Marathon veut carrément les hisser à des nouveaux sommets historiques. Alors, c'est un peu technique, mais ça se calcule en exahash par seconde. On était aux alentours de 25 en tout début d'année. Le premier objectif en janvier, c'était quand même de monter à 35-37 fin 2024. Et c'était déjà un défi, mais désormais l'objectif c'est 50, soit peut-être 7 ou 8% de la capacité de calcul totale de la blockchain Bitcoin, tout confondu. C'est un objectif très, très ambitieux, mais rendu nécessaire, encore une fois, par la baisse des récompenses et en même temps la demande forte de Bitcoin qui reste sur le marché. Donc on veut produire plus de Bitcoin et plus vite, aussi bien pour les investisseurs directs que pour servir de sous-jacent aux produits financiers, comme les ETF indexés sur les cours spot. Et ça, Marathon Digital est sûr d'en avoir les moyens financiers et techniques et va détailler ça dans un plan qui sera prochainement présenté. Marathon Digital qui peut s'appuyer aussi sur une capitalisation boursière très solide, qui a doublé sur un an.
Oui, Marathon Digital qui semble avoir, comment dire, les moyens financiers de son ambition, puisqu'il n'y a même pas de levée de fonds prévue pour faire cela. Dossier à suivre. Merci beaucoup Antoine. Cette séquence est à retrouver en podcast et en replay sur notre site, comme l'ensemble de vos histoires financières, qu'elles parlent d'actifs boursiers ou parfois de crypto, comme aujourd'hui. Les cryptos dont nous reparlerons en fin d'émission avec Amaury Tonquédec, qui est de retour parmi nous, qui reprendra les manettes de BFM Crypto, le club, vous savez, l'émission dédiée au Web3 et aux grosses cryptos et aux moyennes cryptos et aux petites cryptos aussi, tous les jours à 15h, 21h30 et n'importe quelle heure en podcast. Amaury Tonquédec dans l'équipe de Tout pour Investir. C'est l'heure de parler immobilier avec Marie. On va vous faire rêver en ce lundi matin. On va parler d'une branche de l'immobilier qui ne connaît pas la crise, l'immobilier de prestige. A tout de suite, on sera avec la maison Sospice.
Tout pour investir, la place de l'immo.
Il arrive avec son petit soleil, Alexander Kraft. Bonjour.
Bonjour.
Vous êtes le président Europe de Sotheby's avec Marie qui est toute palote à côté si vous nous suivez à la télé.
Oh mais c'est pas gentil de dire ça, Lorraine. Dis donc, c'est lundi, le soleil brille avant l'orage de demain. C'est
Alexander,
pas mal.
Vous avez la même mine que l'immobilier que vous représentez aujourd'hui sur notre plateau. Vous avez bonne mine parce que nous, vous êtes évidemment aux manettes chez Sotheby's d'un pan de l'immo qui va bien, il faut le dire. Et tant mieux pour notre pays.
Oui, c'est ça, c'est qu'on a toujours une résistance, une résilience de ce secteur de l'immobilier de prestige. Alors, tout n'est pas parfait, on va dire les choses clairement, Alexander,
oui,
mais effectivement, comparé, j'ai envie de dire, à l'immobilier du commun des mortels, l'immobilier haut de gamme se porte plutôt bien et résiste bien à la crise qu'on traverse.
Tout à fait. Donc, en temps difficile, l'immobilier de prestige, ça devient toujours une valeur refuge, un investissement alternatif pour les investisseurs avisés. Et là, on voit ce phénomène depuis 12 mois où les gens se penchent vraiment sur le très haut de gamme, entre 5 et 50 millions, pour placer leur fonds là-bas parce que, bien évidemment, à la banque, ça sert à rien, l'argent avec les taux qu'on a.
C'est des gens. C'est pour ça que l'immobilier de prestige s'en sort bien, et particulièrement l'immobilier très haut de gamme, parce que c'est pas des gens qui ont recours au crédit, quoi.
Non, tout à fait. Et c'est justement pourquoi on a un peu marché à plusieurs vitesses quand même, parce que l'immobilier de prestige normal, entre guillemets, ça se ralentit ensemble avec le marché normal et le marché du neuf, parce que tout le monde a acheté pendant le Covid, tout le monde a surclassé sa résidence principale, donc les marchés qui fonctionnent, ce sont les marchés secondaires et le marché très haut de gamme. Donc, ce marché...
Si on doit faire un petit, pour rappeler un peu à nos auditeurs et téléspectateurs, segmenter un peu ces différentes catégories du haut de gamme, moyenne gamme, on parle de quel type de transaction sur le marché qui finalement fonctionne le moins bien chez vous?
Oui. Alors, on a trois types, je dirais. Donc, on a les grandes métropoles, les grandes villes pour les résidences principales. Donc, Lille, Lyon, un peu Paris, Marseille, Bordeaux, etc.
Ouais.
Là, le marché il s'est beaucoup calmé parce que tout le monde a acheté entre 2020 et 2022. Ils ont surclassé, etc. Mais là, donc, on a vraiment une saturation. Donc, il y a beaucoup de biens sur le marché. Les prix sont en train de baisser et l'activité, elle s'est calmée. Après, on a les marchés secondaires traditionnels des Français, les stations balnéaires, Île-de-Ré, Deauville, La Beauce, le Touquet, etc. Là, ça marche assez bien parce que voilà, c'est une valeur sûre. Les gens, ils ont encore leur style de vie entre ville et campagne comme dans le Covid. Et les blue chips, les choses qui marchent toujours, ce sont vraiment les marchés les plus internationaux tels que Paris, la Côte d'Azur, le Sud, les stations de montagne, Megève, Chamonix, Méribel, etc. Et là, on voit la plus grande activité, l'activité la plus stable et les prix les plus hauts aussi.
Ils se stabilisent ou ils augmentent encore là, dans ces secteurs-là où ça marche
bien ? Non. On voit depuis l'année dernière vraiment un plafonnement de prix, voire même une baisse pour certains biens, parce que la chose qu'on a vue depuis 12 mois, les acheteurs ils sont devenus beaucoup plus gourmands. Donc, ils veulent les biens parfaits, dans la localisation parfaite, rien à rénover, juste poser les valises.
Mmh. Est-ce que c'est pas un côté ultra positif, j'ai envie de dire, de cette crise ? On en a parlé sur le marché résidentiel classique, mais est-ce que c'est pas aussi vrai dans l'immobilier haut de gamme, où justement, maintenant, on redonne la vraie valeur à cet immobilier-là, en se disant, on peut pas payer n'importe quel prix pour n'importe quel bien, et donc vous le disiez, aujourd'hui, ce qui part, c'est les biens parfaits, sans défaut. Clé en main, en fait, en plus.
C'est ça, exactement. Et pour moi, c'est un développement qui est très sain, ça veut dire on paye pas n'importe quoi pour n'importe quoi. Non, on veut que la qualité. La qualité se vend encore au bon prix. Par contre, on est 2024, on n'est plus 2022. Donc aujourd'hui, notre défi, c'est de vraiment de réunir les vendeurs qui sont encore en 2022 avec leurs prix et les acheteurs qui attendent déjà des baisses de 20%, 25% quand ils voient les rapports de nos notaires.
Ouais, bien sûr.
Mais ce n'est pas nécessairement le cas pour les très hauts de gamme.
Alexandre, vous avez utilisé l'adjectif gourmand pour dire les acheteurs sont gourmands. Oui. Mais j'ai l'impression qu'ils sont gourmands et gourmets. C'est-à-dire qu'ils ont le temps. Ils prennent
exactement
le temps, il n'y a pas de précipitation.
Ça, c'est aussi la grande différence entre le Covid et aujourd'hui. Les acheteurs sont, pour être poli, très volatiles. Mmh. Ils prennent leur temps.
Ça veut dire quoi, volatile, en pas poli?
Voilà, ils laissent tomber en dernier moment parfois, donc on fait beaucoup de travail.
Vous faites ghoster par des potentiels acheteurs?
Non, même pas, mais on investit beaucoup de temps pour trouver les biens parfaits, pour négocier entre acheteurs-vendeurs pour créer les contrats, etc. Et en dernière minute, ça se casse. Donc,
Et justement, je vous avais appelé il n'y a pas très longtemps, je préparais un sujet sur le real estate porn, cette espèce de fascination qu'on a sur tout l'immobilier très haut de gamme, magnifique, clinquant. Il y a eu des émissions, je pense à la série sur Netflix, mais il y en a plein d'autres.
Laquelle
l'agence avec la famille Kretz, etc. Il y a plein de choses qui ont fait que les gens, tout un chacun, moi la première, se disent « j'aimerais tellement visiter un bien que je ne peux pas m'offrir ». D'après ce que vous nous dites sur ces acheteurs un peu finalement pas si fidèles que ça, est-ce que vous avez aussi beaucoup plus de ces gens-là? Est-ce que ça ne demande pas professionnellement une vigilance de tout instant pour ne pas faire visiter n'importe quoi à n'importe qui?
Définitivement, donc ça fait partie de notre job depuis toujours et depuis on a ce genre d'émission qui n'est pas toujours la
réalité du marché.
Marché, oui, ça devient plus compliqué pour nous. Et ça demande à nous de faire notre travail bien en avance, même des visites.
Et du coup, vous faites le travail. Non, mais je dis ça à ceux qui nous écoutent et qui nous regardent, parce qu'on a tous eu ce réflexe-là. Moi, je reçois assez régulièrement les magazines, que ce soit de Sotheby's ou autre, où j'ai envie de rêver et d'aller visiter. C'est un jeu qu'on se fait en rédaction pour dire, moi, je veux celui-là. Est-ce que vous avez, comment vous arrivez à enquêter sur les profils des potentiels acheteurs pour ne pas perdre votre temps, effectivement, travailler pendant des semaines pour que ce ne soit pas un acheteur crédible, en fait.
Mais on fait des recherches concernant les personnes, parce que dans ces gammes de prix, normalement, ce sont des personnalités assez connues dans la finance, etc. On a beaucoup de contacts avec les banques, avec les family office, etc. Si on ne trouve rien, à la fin, on peut même demander est-ce que vous avez une garantie de banque, quelque chose comme ça. Et si c'est le grand silence après, on sait déjà.
On n'est plus disponible.
Voilà.
Et du coup, ils ont quelle nationalité, alors, les vrais acheteurs, aujourd'hui?
Ce sont encore beaucoup de Français. On s'est attendu à un retour des acheteurs étrangers après le déconfinement, type Emily in Paris, tout le monde a rêvé de style de vie français, mais à la fin, non. Donc, ce sont plutôt nos voisins allemands,
suisses. C'est sûr que la réalité de Paris s'impose à tous.
Ah oui, voilà. Donc ça aussi, voilà. Pas tout le monde veut aller en vélo. Donc,
le petit tacle.
Mais non, ce sont les Européens qui achètent. Les Américains sont là, mais pas en force. Ils attendent attendent les élections. Oui. C'est toujours la même chose tous les 5 ans. Ils attendent les élections et après, n'importe qui gagne, ils sont de retour dans les 4 semaines. On le voit tous les 5 ans, vraiment. Quelques acheteurs du Moyen-Orient qui bénéficient du dollar fort même. Donc, mais étonnamment, ce sont encore les Français qui achètent aujourd'hui.
Parlez-nous de 2-3 biens pour nous faire rêver, Alexandre, des biens qui sont partis à un prix peut-être élevé, mais justifié, parce qu'on l'entend, voilà, vous vendez des biens de plus en plus clés en main, refaits, prêts à l'usage. Donnez-nous 2-3 endroits. Vous nous avez parlé un petit peu de la Côte d'Azur, peut-être un peu de la Corse.
Justement, donc, par exemple, sur le bassin d'Arcachon, Cap Ferré, on a vendu une villa en première ligne, vraiment sublime, sublime, pour un prix record proche de 10 millions, ce qui est un record absolu pour la région, mais c'était justifié parce que c'est un bien qui n'était pas sur le marché depuis très longtemps, parfait état, première ligne. Sur la Côte d'Azur aussi, très belle propriété, Saint-Tropez, parc de Saint-Tropez, voilà, quelque chose qui fait rêver tout de suite. Au bon prix, c'est parti. Sur la Corse aussi, une propriété pied dans l'eau. Vraiment, ça, le rêve total. Et ces trois biens-là, ils sont partis vraiment assez facilement, entre guillemets, parce que tout était parfait et le prix, c'était raisonnable dans le contexte du marché actuel.
J'ai une petite question, soulevons le capot. Justement, vous, Sotheby's, vous avez en face de vous des acheteurs potentiels qui ont le cash, qui ont le temps et la motivation ou les conseils qui les accompagnent dans les achats. Comment vous arbitrez, comment vous décidez quand vous avez deux acheteurs, trois acheteurs qui ont le cash, etc. Comment on fait le choix à qui on alloue finalement le bien?
Mais,
à profil comparable.
Oui. Mais nous... On est au milieu toujours. Donc, à la fin, c'est quand même le vendeur qui décide. On présente des offres, les avantages, etc. On explique les profils. Souvent, c'est aussi, franchement, une question de psychologie entre vendeur et acheteur. Parfois, les gens sympathisent tout de suite. Ils voient, on a des amis communs à Megève, à Londres, à New York, etc. Et ça s'est fait comme ça. Parfois, c'est juste une question d'agent. L'autre est prêt de payer 100 000 de plus. Donc, ça dépend vraiment. Donc, nous, il faut être très diplomate. Donc,
vous mettez un peu d'huile dans les rouages, quand même.
Exactement.
Moi j'avais une question sur les achats immédiats qu'on a connus quasiment autour de 2021. Je me souviens, c'était vraiment limite en quelques jours, le deal se faisait.
Ah, 24 heures parfois,
C'était un truc de dingue. Aujourd'hui, si vous deviez regarder le délai moyen, alors je sais que tous les biens ne se valent pas, vous le disiez, il y a les biens avec zéro défaut qui partent très vite et puis d'autres qui ont un peu du mal à partir. Mais sur ce marché de l'immobilier, très très haut de gamme, vraiment top du top, c'est quoi le délai moyen pour vendre un bien aujourd'hui?
Là, vous faites un peu la nostalgie parce que ça n'existe plus. Malheureusement, les ventes en 24 heures.
Ouais.
Donc, il faut compter, je dirais, entre 3 et parfois 12 mois. Ça dépend vraiment.
Mais du coup, vous dormez peut-être mieux, vous aussi, Alexandre?
Oui et non, ça dépend. mais franchement, encore une fois, là, on est dans un autre cycle du marché. On a eu 3 ans de hausse permanente. Le marché était en train de surchauffer quand même. Et là, il est en train de se normaliser. Et sur le long terme, c'est quand même une bonne chose. Parce que tout le monde a dit, du coup, mon bien, ça vaut encore plus. C'était plus raisonnable. Là, on voit qu'il y a beaucoup plus d'inventaire sur le marché. Il y a une pression sur le prix. Et on voit, avec ça, le marché est en train de se débloquer. Donc, à mon avis, 2024, c'est vraiment l'année de la transition.
De la transition, oui.
Et avec encore des baisses de prix.
Et 2025, peut-être le rebond?
Dieu soit loué, j'espère, oui.
Et juste d'un mot quand même, on n'en a pas parlé, mais les Jeux Olympiques, et je ne parle pas que de Paris, parce qu'il y a quand même d'autres villes qui vont être des villes hautes pour les JO. Est-ce que vous avez le sentiment quand même que derrière la situation compliquée quand même de ce marché, il y a des opportunités ou un appétit qui est un tout petit peu meilleur depuis, à l'approche des Jeux Olympiques? Est-ce que c'est quelque chose de porteur?
Oui et non, je crois il y aura certainement un petit effet Emily in Paris, parce que la France et surtout Paris, ça sera beaucoup plus visible par rapport dans le monde entier, sur les télés, etc. Donc je crois que ça va donner envie de découvrir la France. Est-ce que ces gens-là, ils vont acheter tout de suite des biens haut de gamme à Paris? Je m'en doute. Donc, je crois qu'il y aura un effet positif sur le long terme, mais je crois pas que ça va donner un boost immédiat là, dans les mois à venir.
Mais votre question est intéressante, Marie, parce qu'on pourrait se demander si Paris a besoin de plus de promotion. Non, mais je veux dire, LVMH et Hermès participent beaucoup plus à la visibilité de Paris et de la France, pardon, que Paris, sans faire de politique, je veux dire, la gestion de la ville, les travaux, etc.
Je ne ferai aucun commentaire sur le sujet.
Vous voyez, je me dis, finalement, il n'y a pas un plafond au-delà duquel on ne peut pas plus promouvoir, marketer la ville de Paris.
Oui, je crois que c'est plutôt le style de vie français. Et la beauté du pays entier, c'est pas nécessairement que Paris. Et je suis bien d'accord. Mes amis dans les grands groupes de luxe, ils font déjà bien leur travail. Et certes, voilà, il y a toujours nos propres problèmes parisiens. Mais
ça aussi, ça fait la saveur.
J'avais une toute dernière question parce que c'est mon côté écolo. On a beaucoup parlé avec vos confrères, consoeurs de l'Atlantique Riviera avec le réchauffement climatique et le fait que on avait quand même ces marchés d'immobilier de prestige qui naissaient dans des lieux qui n'étaient pas forcément les plus connus pour ça. C'est-à-dire que la Côte d'Azur est toujours très forte, mais est-ce qu'elle se fait pas un peu, continue un peu à se faire détrôner par d'autres régions, départements français, plutôt côté Atlantique?
On le voit avec votre maison à Arcachon à 10 millions.
Oui, tout à fait.
Le Cap Ferret, c'est quand même un microcosme. Arcachon ou Cap Ferret, la maison? Attention, pour ceux qui nous écoutent sur la côte, c'est
c'était Cap Ferret, mais...
On peut la voir d'Arcachon.
Non, et je viens d'ouvrir une agence à Royan, Île-d'Oléron, etc. Donc non, vous avez entièrement raison. Donc la côte atlantique, elle prend vraiment la côte. Donc même la Bretagne, qui est toujours une favori des Français, pas nécessairement des étrangers. Là, on voit beaucoup plus d'activités parce qu'il y a aussi une relation prix-qualité qui est extraordinaire. On peut acheter un beau château pour 1,5 million, donc une deux pièces à Paris. Mais la Côte d'Azur, ça reste la Côte d'Azur, c'est un blue chip. Ouais. Donc, mais vous avez raison, il y a d'autres marchés émergents. Et justement, je viens d'ouvrir plusieurs agences sur la côte-là dans les derniers mois.
C'est là qu'il faut y aller alors.
Exactement.
Un bien exceptionnel que vous avez vendu dans le Nord.
Dans le Nord.
On parle toujours du Sud.
Oui, c'est vrai.
Dans le Grand Nord, ça peut être Nord-Est, tu sais.
Oui, alors en Normandie, on a vendu plusieurs biens très, très, très intéressants avec des connexions royales, disons. Et on est en train de rentrer là plusieurs biens très, très exceptionnels par des familles internationales. Donc,
Dans quel coin de la Normandie, juste?
La Grande Normandie. Je peux pas dire trop. Par exemple, malheureusement.
Confidentialité sur l'immobilier.
Ah oui, malheureusement.
Allez, il faut que je vous coupe. On est en retard maintenant. Merci beaucoup, Alexandre Kraft de l'équipe Sotheby's, d'avoir été avec nous aux manettes, président de Sotheby's Europe. Merci beaucoup, Marie, de nous avoir fait un petit peu rêver en ce lundi matin. On continue à parler DPE et choses beaucoup moins réjouissantes les prochains jours, mais néanmoins importantes, ces choses qu'il faut évoquer au quotidien pour les auditeurs, investisseurs, locataires, propriétaires qui nous écoutent. Vous restez avec nous, on va s'occuper d'un sujet qui fête ses 10 ans, le crowdfunding, le financement participatif en bon français. Il fête ses 10 ans. Comment cette manière d'investir a évolué? En tout cas, elle vous intéresse, notamment côté immobilier. On en parle pendant une vingtaine de minutes avec vous, chers auditeurs, auditrices. À tout de suite.
BFM Business, tout pour investir. Lorraine Goumeau.
On répond à vos questions tous les jours à 11h30 dans Tout pour investir. Et aujourd'hui, on va s'intéresser particulièrement au crowdfunding, au financement participatif, comme on dit en bon français pour nos auditeurs les plus puristes. Parce que figurez-vous que ce crowdfunding fête ses 10 ans. Et oui, 10 ans que vous pouvez financer de manière collégiale des projets. Et nous allons décrypter cette histoire de 10 ans avec deux invités. La première, c'est
Florence Demopou. Bonjour Florence.
Bonjour Lorraine.
Vous êtes directrice générale de Financement Participatif France. Vous allez nous éclairer au cours de cette interview. Vous êtes accompagnée de Bertrand Desportes. Bonjour Bertrand.
Bonjour Lorraine.
Vous êtes associée chez Mazar. On revient sur une étude que peut-être certains d'entre vous ont déjà pu regarder de près ou de loin sur le crowdfunding qui dit plein de choses finalement de notre rapport à l'investissement. En disant, peut-être qu'on peut démarrer par ça, si vous voulez bien. Bertrand, vous qui êtes de nature, comment dire, consulting, donnez-nous votre regard sur ce que dit l'intérêt du financement participatif pour les Français et les Françaises qui mettent des billes dans ce mode d'investissement.
Alors, vous avez raison, en fait, les 10 années du crowdfunding, les décrets d'application qui ont permis aux plateformes d'opérer date de 2014, on est en 2024, donc on a vraiment un recul de 10 ans. Au tout début, le crowdfunding en France représentait moins de 200 millions de collectes par an. On est à plus de 2 milliards pour la deuxième année consécutive, ce qui veut dire que c'est vraiment ancré dans l'usage des Français en matière d'épargne, d'investissement, tout simplement parce que c'est des projets qui font sens, des projets de proximité, des projets qui apportent de la transparence et de l'intérêt à la fois économique, mais aussi il y a une dimension valeur qui est assez forte. Et puis le crowdfunding, il faut bien le dire, a des qualités intrinsèques. Vous choisissez vraiment votre projet, ce qui permet d'avoir un ciblage de son investissement, et ça, c'est tout à fait pertinent et dans l'air du temps.
Ciblage et proximité vous semblent deux mots pour qualifier ce financement participatif, chère Florence?
Oui, complètement, et j'ajouterais la transparence aussi. C'est vraiment l'essence même du financement participatif, la transparence pour l'investisseur ou le donateur, parce que peut-être pour...
On va revenir un peu aux origines,
parce
que je vais vous faciliter.
Mais voilà, transparence parce qu'on choisit d'affecter son argent à un projet dédié.
C'est un peu un mot valise, le crowdfunding. Je le vois d'avoir lu quelques auditeurs qui m'écrivent depuis le début de l'émission. On a un peu l'impression qu'il y a un peu à boire et à manger derrière ce mot. Qu'il y a plein de... On a utilisé le mot plateforme. Il y a plein de plateformes. Mais qu'est-ce que c'est à la base le financement participatif? L'éthique.
Non, c'est vrai que ça recoupe une variété d'acteurs. Enfin, il y en a vraiment pour tous les goûts, hein, une variété d'acteurs. En fait, il y a trois métiers dans l'univers du financement participatif. Le don, donc vous allez avoir le don avec ou sans contrepartie. Sans contrepartie, on est plutôt sur le secteur associatif, avec contrepartie plutôt le secteur entrepreneurial. Et les contreparties vont être soit symboliques, soit on est quasiment sur de la prévente, du préachat pour le contributeur. Le prêt rémunéré ou non rémunéré ou l'emprunt obligataire. Donc là, on est dans une démarche beaucoup plus financière avec des taux d'intérêt qui peuvent aller de 4 à 12% en fonction du secteur d'activité, du risque de l'entreprise financée et donc sur des entreprises un peu matures, 2 ans minimum d'exercice comptable. Et puis l'investissement en capital, là, l'entreprise va... entreprise ou start-up va ouvrir son capital à de nouveaux actionnaires et tout un chacun peut mettre à partir de 100 euros parfois sur certaines plateformes au capital, enfin pour devenir vraiment actionnaire de l'entreprise. Donc c'est ça un peu toutes les variétés avec une centaine de plateformes qui existent dans l'univers du financement participatif.
Du don au prêt rémunéré ou pas, l'obligataire en parlant par l'investissement en capital, on voit la largeur de l'univers d'investissement dont on parle. Est-ce que vous pouvez nous rappeler finalement comment on devient investisseur, crowdfunder? On peut mettre sur, une fois de plus on va utiliser ce terme, directement sur une plateforme, mais ça concerne aussi les fonds.
Oui, alors les plateformes travaillent de plus en plus avec des fonds et collaborent aussi de plus en plus avec des CGP et des conseillers en investissement participatif, des conseillers en investissement financier, pardon, qui vont accompagner leurs clients et faire une analyse de telle ou telle plateforme pour pouvoir proposer cet outil de financement dans une démarche de diversification du portefeuille de leurs clients. Donc c'est vrai que c'est des canaux de collecte qui sont de plus en plus courants. Et que révèle le baromètre qu'on publie chaque année avec Mazar.
Justement, Bertrand, vous allez nous aider à prendre la mesure de ce crowdfunding. Mettez-nous quelques chiffres pour qu'on comprenne ce que ça pèse. Est-ce que c'est si important que ça? Est-ce qu'on a autant de gens investis en crowdfunding que d'autres pays? Est-ce qu'on peut, vous pouvez un peu nous benchmarker?
Oui, alors déjà en France, on est sur une année à 2,1 milliards de collectes. Alors c'est un petit peu en recul par rapport à 2022, puisqu'on enregistre une baisse de moins 11,3%. Alors le crowdfunding n'échappe pas aux réalités économiques des sous-jacents et l'immobilier pesant beaucoup dans le crowdfunding. Et comme vous le savez, l'immobilier a enregistré plutôt une mauvaise année, moins 28% de collecte.
On va y revenir, allez, sur l'immobilier.
On y reviendra, mais du coup, ça fait une année, oui, en demi-teinte, mais pleine de contrastes, parce que vous avez l'immobilier qui baisse, et dans le même temps, on a les énergies renouvelables, le financement de la transition énergétique en éolien, en solaire, en biogaz, etc., qui, lui, progresse de 12%. Et il y a un dernier aspect qu'il faut avoir en tête, c'est l'innovation qui, lui, progresse de plus de 78%, ce qui est tout à fait considérable. Pour répondre à votre question aussi, il y a le nombre de projets qui est important. On dépasse pour la première fois 150 000 projets financés à l'année.
Alors 150 000 projets.
En balance avec 2020, il n'y a pas que des gros projets. Mmh. Il y a même beaucoup de petits projets, de micro-entrepreneuriat, d'artisanat, de solidarité. Puisque comme Florence l'évoquait, il n'y a pas que de l'investissement, il y a aussi du don et ça fait beaucoup de volumétrie. Mais c'est aussi ça le crowdfunding et c'est vraiment rentrer dans les mœurs et dans les usages. Et c'est des projets qui sont le plus souvent à impact et qui font sens pour les porteurs de projets et pour les Français qui s'y intéressent. Par rapport à un benchmark européen, j'aurais tendance à dire que la France est très bien placée en termes de nombre de plateformes sous PSFP, qui est le nouveau régime et le nouvel agrément. On est en tête avec plus de 55 plateformes.
Il y a 55 plateformes sur 128 PSFP en Europe.
Voilà. Bon, pour ceux qui nous suivent, un nouvel acronyme, mais très simplement, PSFP, c'est un agrément qui va permettre, ou qui permet déjà aux plateformes qu'ils souhaitent de passeporter leurs activités d'un pays à un autre, enfin d'un État à un autre. J'ai bien résumé ?
Oui, alors il y a cette logique de passeport, il y a aussi cette logique d'obligation réglementaire, c'est-à-dire vous devez avoir des fonds propres réglementaires, vous devez avoir un dispositif de gestion des risques, vous devez assurer à vos investisseurs de la transparence sur les projets, du reporting, et vous classez vos investisseurs en non-avertis ou en avertis. Ce qui veut dire qu'en fonction de la classification, ces investisseurs vont avoir le droit à un délai de rétractation plus ou moins long, à avoir plus ou moins d'informations, donc leur parcours d'investissement est jalonné. Ça, c'est important de l'avoir en tête. Et le PSSP vous garantit ça.
C'est un vrai KYB, en fait, des plateformes vis-à-vis de... Enfin, KYB, non, pas exactement, mais du coup, c'est un vrai travail d'identification et de vérification que les plateformes doivent faire.
Oui, c'est vraiment une garantie pour l'épargnant de passer par des plateformes qui ont cet agrément parce que ça leur assure, finalement, plus de sécurité, plus de transparence.
Bertrand Desportes, de chez Mazars, Florence de Maupoux, de Financement Participatif France, du don auprès, en passant par l'investissement en capital, quelles sont les grandes masses ? Le don aujourd'hui pèse combien à l'intérieur du financement participatif ? Est-ce qu'on sait ça ?
Alors, en termes de nombre de projets, le don recense la plus grande masse de nombre de projets. En termes de volume, on est sur des chiffres un peu plus...
160 millions.
160 millions, oui. Voilà. En termes de nombre de volume collecté en financement en don. Et c'est le prêt rémunéré et l'obligataire. Enfin, c'est l'obligataire, en fait, surtout, qui collecte 60-70% des volumes collectés sur l'année 2023 en crowdfunding. Et on est à 268 millions sur l'investissement en capital pour l'année 2023. Donc une très belle progression aussi en 2023 de l'investissement en capital.
On va zoomer sur l'immobilier. On va aussi zoomer sur les projets d'énergie renouvelable qui, vous nous le disiez un petit peu, déjà en sous-jacent, représentent une grosse partie du financement participatif. En tout cas, ce sont des mots associés au financement participatif, l'impact. Mais avant, je voudrais qu'on touche un mot des projets dans lesquels on met des billes. Moi, je suis entrepreneur, je veux mettre mon entreprise, l'ouvrir à un financement participatif. Est-ce que le profil des entreprises a changé ? Je ne sais pas, Bertrand ou Florence, qui veut commencer peut-être ?
Non, je crois qu'il n'y a pas d'entreprise type pour le crowdfunding. Le crowdfunding, maintenant, vise très très large. Après, il y a des usages et des canaux un peu spécifiques. Effectivement, la promotion immobilière ou les marchands de biens, ils voient un intérêt parce que, au-delà de leur financement en pré-commercialisation et le financement bancaire, ils ont besoin d'avoir des fonds propres et ces fonds propres, ils vont se les faire refinancer par le crowdfunding. Donc, ça, c'est un premier usage. Il y a le financement de la transition énergétique, on y reviendra, mais c'est important d'avoir en tête qu'une plateforme de crowd qui fait du financement de projets type éolien, solaire, etc., a tout intérêt à associer la population locale via le crowdfunding, parce que ça lui donne des taux bonifiés de vente d'électricité à la revente, et par ailleurs, ça assure l'acceptabilité du projet, puisqu'il y a une campagne de crowdfunding au cours de laquelle il va y avoir des tables rondes, des ateliers pour bien faire expliquer le projet en
évangéliser
long large,
les projets.
Évangéliser et le rendre plus acceptable pour la population locale. Donc cet outil, c'est un outil de communication et d'acceptabilité qui est assez fort. Puis après, il y a les TPE-PME qui s'en servent pour différents usages.
Il y a un peu pour chaque projet, chaque type d'entreprise, sa plateforme et sa typologie de financement. Après, peut-être sur les types de financement comme l'investissement investissement en capital ou le dos encore, on est quand même beaucoup plus sur des projets B2C pour que bah, le contributeur, le parti contributeur comprenne dans quoi il investit et quel projet il soutient. Là où peut-être c'est plus, plus varié sur le prêt ou l'emprunt obligataire puisque l'investisseur va être plus dans une démarche de constitution d'un portefeuille et de diversification de son épargne avec à la fois la recherche d'un investissement sur de l'économie réelle et d'un impact, mais aussi le taux d'intérêt qui peut monter jusqu'à, bah, jusqu'à 12% en ce moment dans l'immobilier.
Voilà, le crowdfunding qui se maintient au-dessus des 2 milliards d'euros de collecte à l'issue, vous nous le disiez Bertrand, d'une année pleine de contrastes. On va continuer à en parler. On va zoomer sur l'immobilier parce qu'on a quelques questions, notamment celle de Laurent qui est tombée. Mais avant ça, on va marquer une toute petite pub. Vous revenez avec nous, enfin vous restez branchés. On arrive dans 30 secondes, à tout de suite.
Tout pour investir. Investir autrement.
On s'occupe de parler, de fêter les 10 ans du crowdfunding dans Tout pour investir, puisque cette méthode de financement date de 2014. Oui, ben ça fait 10 ans, bien sûr, mais je veux dire, on aurait pu être moins dans un âge précis. Néanmoins, le crowdfunding est très souvent associé à l'immobilier. En l'occurrence, Bertrand, vous nous disiez il y a quelques minutes que la tendance était plutôt baissière sur les financements de projets immobiliers. Florence, quelques chiffres pour le comprendre.
Oui, alors comme l'a dit Bertrand, le crowdfunding immobilier, depuis quelques années, c'était vraiment la locomotive du secteur. Il y a un très fort attrait du crowdfunding immobilier avec des TRI qui sont en moyenne de 10,3% sur des maturités de 22 mois, donc très fort attrait. 2023, c'est la première année où en effet, il y a une tendance baissière puisqu'il y a une collecte de la collecte était de 1,1 milliard versus 1,6 milliard en 2022, donc une baisse de la collecte de 28% en 2023 et du coup le crowdfunding immobilier ne représente plus que 55% des volumes globaux collectés en financement participatif versus on était à 68% en 2022.
Est-ce que c'était une alternative à l'achat immobilier classique? Parce qu'on parle des 10 dernières années, donc d'une période où les taux immo étaient particulièrement bas. Comment ces taux bas ont soutenu l'investissement dans le crowdfunding immobilier, Bertrand?
Ces taux bas ont soutenu, en tout cas ont rendu très attractif le crowdfunding immobilier. Quand l'épargne réglementée, les livrets vous donnaient du 1%, 1,5%, le crowd en comparaison donnait du 9 à 10%. Évidemment, avec l'augmentation de la prime de risque, le crowdfunding s'est réajusté. Donc les taux ont passé le cap des 10% et vont progresser vers 11, 12%. Donc ça a toujours suscité un attrait pour avoir un rendement intéressant. Et puis c'est un outil de diversification par ailleurs par rapport à d'autres formules comme les SCPI, les fonds, l'épargne réglementée. Donc il faut toujours prendre le crowdfunding pour ce qu'il est, c'est-à-dire un instrument de diversification d'une épargne et non pas investir uniquement dans le crowdfunding. La bonne précaution d'usage, c'est d'investir sur plusieurs plateformes et sur plusieurs projets pour s'assurer de se garantir de toute difficulté qui peuvent être des retards, des projets qui mettent plus de temps à rembourser leurs investisseurs. Donc plus vous diversifiez, plus vous réduisez votre aléa.
Justement, le retard, c'est ce que je lis en pointillé dans un message d'auditeur de Laurent qui m'a écrit ce week-end, qui dit sur le crowdfunding immobilier, il est investi à hauteur de 10 000 euros dans une plateforme et il me parle justement du retard. Il me dit quand attendre un retour ? Est-ce que ces plateformes, by design, elles mettent du temps à répondre par rapport à d'autres domaines de l'investissement ? Est-ce que il y a des plateformes qui sont moins rigoureuses que d'autres ? Comment vous analysez ce secteur sans mettre des gens forcément à l'index ?
Je vais commencer, puis Florence me complétera. Je pense que il n'y a pas de bonne ou de mauvaise plateforme. Elles ont toutes le même socle réglementaire. Après, il y a des projets qui peuvent être plus compliqués que d'autres parce que les niveaux de pré-commercialisation étaient plus faibles, parce que les garanties étaient moins importantes. Et après, il y a l'aléa de l'immobilier, notamment de la promotion immobilière. Pour livrer la construction d'un immeuble, puis ensuite pour le commercialiser, c'est pas une science exacte. Quand vous êtes sur un emprunt obligataire de 24 mois, il se peut qu'au bout de 24 mois, vous n'ayez pas complètement terminé. Donc, votre remboursement de la masse obligataire va différer. Mais néanmoins, c'est pas pour ça qu'elle ne va pas se faire, mais elle risque de se faire avec une prorogation qui amènera peut-être à une maturité finale de 36 mois. Pendant ce temps, les intérêts sont versés. L'objectif, c'est de tomber sur des projets qui n'aillent pas en défaut. Pour l'instant, les taux de défaut restent encore assez faibles et c'est ça qu'il faudra surveiller en 2024.
Florence de Maupoux, j'ai une question du même ordre de Franck qui nous suit régulièrement sur notre antenne. Il a investi des petites sommes sur deux plateformes. Une des deux plateformes a disparu corps et biens. Voilà. Est-ce que, comme dans tout domaine, voilà, il y a aussi ces plateformes, c'est aussi des startups, c'est aussi des boîtes qui ont
oui,
vu le jour et qui ont traversé le tunnel de la mort. Oui. Comment on dit aux investisseurs là, qui peut-être, même si c'est des petites sommes, ont perdu de l'argent? Est-ce qu'il faut s'en inquiéter?
Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que si la plateforme fait défaut, comme l'a mentionné Bertrand,
le socle est réglementaire de la rapporter.
Voilà, y a c'est un agrément. Hein, c'est pas un statut anodin, c'est un vrai agrément, et elles doivent mettre en place une gestion extinctive de leur activité, un plan de continuité de l'activité. Donc, elles ont des règles à mettre en place. Et je ne sais pas de quelle plateforme il s'agit, mais a priori, soit elle a mis en place un plan de continuité d'activité, et il y a un prestataire qui a été désigné pour continuer à récupérer, enfin à faire du recouvrement sur les projets qui sont en cours. Et à faire en sorte que les projets en cours se terminent dans les meilleures conditions possibles, soit la plateforme a été rachetée par une autre plateforme, et c'est ce qu'on a vu ces dernières années, la plupart du temps. Il n'y a pas eu de casse de plateforme parce que les plateformes ont été rachetées par d'autres acteurs.
Et rappelons aussi d'un mot, c'est que l'argent ne transite pas par les plateformes, ça va du porteur de projet à l'investisseur et vice-versa, par l'intermédiaire d'un prestataire de services de paiement. Donc c'est pas la plateforme qui capte les fonds.
Oui, voilà, tout à fait.
Le fonctionnement de ces plateformes avec, vous l'avez dit, un même socle réglementaire. On va parler...
Pardon, je voulais juste pour compléter ce que disait Bertrand aussi, c'est vrai que pour les investisseurs qui ont investi dans des projets, alors surtout en 2020-2021 et qui accusent des retards... c'est vrai que c'est très compliqué aussi pour la plateforme de donner toute l'information parce qu'il y a des procédures qui sont confidentielles, donc il y a des projets qui sont en retard et comme le disait Bertrand, 2024 on verra un peu, on va atterrir sur certains projets et voir si ces prorogations on a pu sortir par le haut et récupérer les sommes investies ou s'ils passent en perte définitive.
Voilà ce qu'on pouvait vous apporter comme éclairage, cher Franck, bien sûr. Un mot pour finir ce portrait du crowdfunding en 2024, 10 ans après la naissance de ce domaine d'investissement, on va le qualifier de cette manière-là, ce sont les énergies renouvelables. Vous nous disiez, Bertrand, que c'était la grande tendance de l'année passée, de 2023. Qu'est-ce que ça veut dire concrètement? On finance plus de projets, les projets lèvent plus d'argent...
Oui.
Les deux.
Il y a une augmentation et du nombre de projets et du volume de collecte. Alors, il y a un socle réglementaire très, très puissant derrière. Il y a la loi énergie-climat qui oblige les acteurs de la filière de l'énergie de diversifier leur mode de production et donc de passer vers de l'énergie renouvelable. Donc, c'est le photovoltaïque, l'éolien, le biogaz ou encore l'hydroélectrique. Et les plateformes s'insèrent dans cette démarche-là. Il y a un écosystème très puissant de plateformes en France comme l'Endosphère, l'Endopolis, l'UMO, Enerfip ou encore WeSeed qui portent des projets et qui permettent à des investisseurs particuliers soucieux de cette transition écologique d'y participer et d'en bénéficier aussi de l'intérêt économique. Donc en termes de montant collecté, c'est 368 millions sur l'année 2023, ce qui est assez considérable et c'est en progression. Il n'y a pas de raison que ça s'arrête là, compte tenu de l'appétence des Français pour cette thématique-là et des rendements qui sont eux-mêmes en progression avec de belles qualités de signature parce que les porteurs de projets, pour le coup, c'est pas des petits promoteurs immobiliers ou des petits marchands de biens, c'est souvent des acteurs de l'énergie qui peuvent être d'une certaine taille, donc qui offrent en plus des garanties financières et de la prévisibilité sur leur business plan très important. Donc pour les investisseurs, c'est en plus, je pense, une bonne diversification au sein du crowdfunding.
On parle de financement participatif en bon français. On ne parle pas beaucoup d'exit depuis tout à l'heure. Quel est, notamment peut-être à l'intérieur de ces projets d'énergie renouvelable, le pourcentage d'entreprises qui remboursent? Est-ce qu'il y a des secteurs où on rembourse déjà mieux? Parce que 10 ans pour un horizon d'investissement, ce n'est pas monstrueux pour peut-être les projets qui ont levé il y a une dizaine d'années. Est-ce que, aujourd'hui, on observe quand même des entreprises qui deviennent rentables et qui finalement remboursent les personnes qui ont mis des billes? Bertrand ou Florence?
S'il y a un retour sur, enfin, s'il y a une sortie des investissements. Oui, il y en a. Alors, j'ai plus le chiffre en tête, Bertrand. Je ne sais pas si. si tu as
Sur les projets immobiliers
Non, pas sur les, enfin sur l'investissement en capital du coup.
Ah oui, oui, sur l'investissement en capital, oui, il y a un certain nombre de start-up qui remboursent leurs investisseurs et qui permettent du coup à la communauté d'investisseurs de dégager une plus-value. Après, on n'a pas de statistiques précises.
Pourquoi c'est compliqué d'avoir ces statistiques ?
Parce que c'est sur une échelle de temps beaucoup plus longue et parfois il faut 5 à 10 années pour obtenir une vision globale. Donc on n'a pas consolidé la vision du nombre de start-up qui ont permis un remboursement. Mais néanmoins, il y a des dynamiques très intéressantes sur un certain nombre d'entre elles, avec des plateformes également très dynamiques et des nouveaux acteurs cette année, comme Crowdcube, comme Blast, comme Tudigo, WeSeed, qui sont très actives et qui proposent des opportunités en capital particulièrement attractives.
Impossible de parler de financement participatif et donc d'épargnants et d'investisseurs sans parler du travail de Paul Midi, qu'on essaye Exactement. De documenter autant que possible dans cette émission. Peut-être un mot pour finir, Florence. Je rappelle que voilà, ce député a beaucoup travaillé pour rapprocher, je dirais, les épargnants, les épargnantes des entreprises. Justement, vous êtes directrice générale de Financement Participatif France. Dans les 10 prochaines années, qu'est-ce qu'on peut espérer pour le crowdfunding ?
Oh, on se projette très loin là. Non, c'est sûr que les dispositifs d'incitation fiscale tels que le dispositif mis en place par Paul Midi qui permettent de booster l'investissement des particuliers dans des jeunes entreprises innovantes de croissance ou de rupture avec des fiscalisations qui vont de 30 à 50% pour le particulier, c'est des dispositifs qui sont de nature à booster considérablement l'investissement des particuliers dans l'économie réelle. Donc c'est des choses évidemment que nous au titre de financement participatif France, on impulse au maximum. Et là, dans les 10 prochaines années, si des dispositifs comme ça se maintiennent, on peut imaginer que l'investissement en capital qui a déjà fait plus 80% entre 2022 et 2023 continue largement sa progression. Et ça peut jouer aussi, ce qui est, je pense, un gros enjeu, à l'éducation financière, puisque on est en France assez peu éduqués à l'investissement, assez frileux, et donc ce type de dispositif peut permettre de prendre des risques mesurés, parce qu'il y a quand même une incitation fiscale qui n'est pas inintéressante, pour justement aller financer l'économie réelle.
Bertrand Desportes, le mot de la fin, le chiffre de la fin peut-être pour finir.
Non, le mot de la fin, pour rebondir sur ce que dit Florence, il y a évidemment le dispositif Paul Midi qui va inciter les investisseurs particuliers à aller sur le crowdfunding en equity. Puis par ailleurs, il faut rappeler que le crowdfunding, c'est l'accessibilité pour 100 euros. Vous pouvez rentrer sur des projets non cotés et il y a que ça qui permet de le faire finalement, parce que les fonds communs de placement à risque, les tickets sont beaucoup plus élevés. Et quand vous êtes business angel, on parle de tickets bien supérieurs. Donc le crowdfunding, c'est quand même une belle initiation au capital privé des entreprises.
Voilà, les 10 ans du financement participatif. Merci beaucoup Florence de Maupou, directrice générale de Financement Participatif France, et merci Bertrand Desportes, associé chez Mazars, d'avoir fait ce portrait, cet anniversaire du financement participatif dans Tout pour investir. C'est la fin de l'émission. Merci à toutes et à tous pour vos messages, notamment nombreux concernant Total Energy qui pourrait quitter la côte parisienne pour Wall Street et qu'est-ce que ça signifierait pour notre PEA. Nous vous répondrons en détail demain avec l'équipe du mardi, Christian Fontaine du Revenu et Jean-Louis Delheureux de BFM Business. Nous serons là demain dès 10h, bien sûr. On parlera d'ailleurs du meilleur placement d'attente quand on a 100 000 euros. Voilà le programme de demain. On sera également avec un exceptionnel violon de Jean-Baptiste Huillaume, pour les amateurs, l'un des plus grands luthiers français du 19e siècle. On parle d'un violon à 160 000 euros. Voilà, ce sera au programme de demain. Mais d'ici là, il est avec vous et Sandra Gandoin qui prend les manettes d'ici quelques minutes.
Bonjour Lorraine.
L'émission de la Libre Antenne, de l'économie. Bonjour Sandra. Quel est le programme du jour ?
On va parler de négociation en entreprise. Comment négocier d'avoir un coach ? Comment négocier son salaire, par exemple ? Petite leçon à suivre. Comment faire aussi quand votre société est en difficulté ? Comment se former au métier de la tech ? On va parler aussi de vos problèmes juridiques avec notre juriste et de toutes les questions que vous allez nous poser à notre adresse ce midi. Vous pouvez le faire dès maintenant avec vous à bfmbusiness.fr. Nos experts sont là pour répondre à toutes vos problématiques en entreprise.
Avec vous en direct à la radio, à la télé, sur le web et sur les réseaux sociaux.
Il est de retour pour nous parler Web3 et crypto. Bonjour Amaury Tonkadek.
Bonjour Lorraine, bonjour à tous.
Vous allez prendre les manettes de BFM Crypto Le Club à 15h. Quel est le programme de l'émission du jour?
Bon, deux grosses actualités à retenir. C'est Changpeng Zhao, donc l'ex-PDG de Binance, la plus grosse plateforme d'échange au monde, qui devrait connaître sa peine, potentielle peine de prison demain aux États-Unis. Il risque 36 mois de prison. On le rappelle, Binance avait écopé de 4,3 milliards de dollars d'amende pour avoir enfreint les règles de blanchiment aux États-Unis. Et ensuite, peut-être bientôt au renom des ETF Bitcoin Spot en Australie, hein, après les États-Unis et après Hong Kong. Voilà, peut-être une autre partie du globe qui va les accepter. Donc on va suivre tout ça. Et dans l'émission, on verra aussi comment s'exposer à la blockchain, à la thématique blockchain, sans acheter directement des cryptos, via un fonds qui, lui, achète des actions d'entreprises qui ont des activités dans le secteur de la blockchain.
Voilà, on s'occupe de votre diversification de portefeuille. Si vous faites partie des gens qui considèrent le Bitcoin et les crypto-monnaies comme des actifs comme les autres, c'est BFM Crypto, le club, 15h, 21h30. Et puis, vous le savez, en podcast et en replay, à n'importe quelle heure du jour et de la nuit. On se quitte avec le Bitcoin qui se négocie autour de 62 534 dollars. Très bonne écoute sur BFM Business. À demain.
Tout pour investir sur BFM Business.